sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le mardi 1er mars 2011 s'est tenu sous la coupole en présence de Luc Chatel, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, une séance solennelle interacadémique présidée par Gabriel De Breuil, chancelier de l'Institut, sur le thème « Les nouveaux défis de l'éducation ». L'Institut et les académies qui le composent ont en effet jugé essentiel d'insister de façon publique sur la gravité de la situation. Au cours de cette séance solennelle, vous entendrez donc successivement Gabriel De Breuil dans son allocution d'ouverture, Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, dans un discours intitulé « École et nation », Pierre Léna de l'Académie des sciences dans un discours intitulé « La science en héritage » et Michel Serres de l'Académie française dans un discours intitulé « Petite poussette ». Ils mettent en perspective la nature des problèmes en cause dans la transmission du savoir par l'école et les solutions qui pourraient être apportées au-delà des contingences politiques et des contraintes sociologiques. Grâce à Canal Académie, entrez sous la coupole.
Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le sénateur, monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Notre pays a longtemps bénéficié d'une réputation enviée et méritée en matière d'éducation. Il disposait de générations nombreuses d'hommes et de femmes excellemment formés dans les métiers, les entreprises, les écoles, les laboratoires. À l'avant-dernier siècle, un système d'éducation rénové s'était déployé dans un ordre majestueux. Généralisation de l'enseignement primaire, développement de l'enseignement secondaire, essor brillant de l'éloquence universitaire, de l'érudition, de la création littéraire. L'éclat de notre 19e siècle doit beaucoup à la qualité de notre éducation. La nation assurait alors la formation de ses enfants, mais aussi celle de nombreux jeunes étrangers, et peuplait de ses meilleurs sujets le cosmopolitisme triomphant de l'Occident. Ce succès de civilisation n'a pas disparu, il en subsiste d'imposants restes aujourd'hui, il a tendance à se dissoudre progressivement. Le charme s'est rompu, non pas à une date donnée, ni en France seulement, mais notre système d'éducation ne figure plus au tableau d'honneur des nations. Depuis un demi-siècle, les avertissements les plus autorisés et les plus fermes n'ont pas manqué. Il a sans doute fallu une enquête internationale de plus, la disparition d'un grand savant visionnaire, pour que l'Académie des sciences décide de prolonger l'hommage solennel à Georges Charpak d'un véritable cri d'alarme. Elle n'a pas eu de peine à convaincre l'Académie française et l'Académie des sciences morales et politiques de joindre leur voix à la sienne, ni Monsieur le ministre de l'Éducation nationale d'honorer cette séance de sa présence, ni les hauts responsables de l'éducation et de l'enseignement supérieur de se joindre à nous pour examiner avec nous les nouveaux défis de l'éducation. Les défis de l'éducation semblent se renouveler moins qu'ils ne s'accumulent. À l'époque où le service de la nation disparaît, où se relâchent les disciplines familiales, quelle est la mission essentielle de l'école, sas devenu unique par lequel transite toute la jeunesse de la nation? Est-ce le principal lieu de vie du jeune âge, avec le maximum d'enrichissements individuels et optionnels, ou bien, principalement, le temps social pour apprendre? D'où les débats sur les rythmes scolaires, les horaires d'enseignement, le nombre des élèves, leurs relations avec les professeurs, mais aussi quelle performance collective a signé à ce vaste ensemble. D'où les questions de l'évaluation, de l'orientation, du redoublement, des passerelles. Ce bref inventaire des défis aurait de quoi décourager. Pour les surmonter tous, il faudrait être au moins Charlemagne. Mais le diagnostic est posé. Les esprits ont évolué. Le monde politique est préparé. Le gouvernement avance des solutions et veut bien entendre nos réflexions. Écoutons donc nos confrères. Nous allons entendre M. Xavier Darcos, ancien ministre, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, M. Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences, et M. Michel Serre de l'Académie française. Écoutons-les. Ils sont chacun grands experts en éducation, grands témoins des mouvements des sociétés, grands acteurs de la transformation qui s'opère sous nos yeux. Il se pourrait que leurs paroles nous inspirent des pensées neuves, moins sombres, que celles auxquelles une opinion trop agitée depuis quelques années nous a accoutumés. La parole est à M. Xavier Darcos pour son discours intitulé « École et nation ».
Monsieur le ministre, mes chers confrères, mesdames et messieurs, investi du périlleux honneur de la parole publique, et pour la première fois sous cette coupole dans mes fonctions de secrétaire perpétuel, je suis heureux de pouvoir m'exprimer sur le sujet qui me tient à cœur et auquel j'ai consacré l'essentiel de ma carrière, l'école de la République. Mais au moment de commencer ce discours, je ressens la nécessité d'invoquer les noms de deux orateurs, parmi les plus grands que l'histoire ait connus. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un éditeur avisé demanda à Georges Clemenceau, dont l'éloge de l'éloquence n'était plus à faire, d'écrire une biographie de Démosthène, le modèle de l'art oratoire de la Grèce antique. L'Athénien avait mis son verbe au service de la cité pour l'appeler à résister face à l'envahisseur macédonien. Il était facile de faire le lien avec la Grande Guerre. Certes, Démosthène avait échoué, mais il restait une référence et Clémenceau était en quelque sorte un Démosthène qui avait réussi. Relire aujourd'hui ce petit livre est du plus grand intérêt. Démosthène venait de loin, desservi dans sa jeunesse par une difficulté d'élocution. Il l'avait surmonté, dit-on, en s'obligeant à parler avec des cailloux dans la bouche. On a fait mieux depuis. L'orthophonie en était, si j'ose dire, à ses balbutiements. Devenu le redoutable maître du verbe politique, il consacra son talent à tenter de mobiliser les Athéniens menacés par le roi Philippe. De l'échec même de ce génie rhétorique, dont la division des Grecs était seule cause, Clémenceau tirait une grande leçon pour notre temps. La vérité, écrivait-il, est que ces hommes qui avaient tant de raisons de serrer les rangs, de s'unir en vue de se consacrer à l'œuvre commune des libérations de l'intelligence, mettaient au-dessus de tout le plaisir de se massacrer. Pour tout dire d'un mot, ces Hélènes, si finement intellectualisées, n'eurent pas le sentiment de la grande patrie. Ainsi, la Grèce avait la démocratie, elle avait l'intelligence, pourtant, elle était vouée à être vaincue, parce qu'elle ignorait les liens qui unissent une nation. Comparaison n'est pas raison, me direz-vous, car la France d'aujourd'hui n'est pas la France de Clémenceau, et encore moins l'Athènes de Démosthène, et vous aurez raison. Pourtant, je crois que la leçon demeure forte, puissante, gênante. Il ne suffit pas d'avoir la démocratie. Si les cohésions morales et politiques sont insuffisantes, alors la société est condamnée à devenir une poussière d'individus désemparés. Or, le français est français par volonté, parce qu'il le désire ou parce qu'il l'a choisi. Renan avait placé cette spécificité au centre de sa célèbre conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» prononcée à la Sorbonne en 1882. La France, à ses yeux, se fonde sur une conception élective et non pas ethnique de la nation. Elle est moins une origine qu'un projet, un creuset où fusionnent les différences et les convictions privées. Ce souci d'intégration dans notre espace républicain, dans une communauté civique, a conduit notre modèle politique à adopter un principe simple. Devenir français, c'est devenir citoyen français. Il faut donc susciter, entretenir, transmettre les ferments de l'unité. Tel est l'enjeu premier de la nation, et c'est l'école qui s'en charge. École et nation. La seconde ne peut vivre sans la première, car la première est le lieu où s'apprend l'unité de la seconde, ce que nous avons en commun, ce que nous voulons faire en commun. École et nation, d'ailleurs, entretiennent des rapports passionnels. On a toujours l'impression qu'il y a dans notre pays 65 millions de spécialistes de l'école, un nombre en constante augmentation grâce à la bonne tenue de notre démographie. Être français, c'est bien naturel, c'est vouloir la scolarité de nos enfants, c'est vouloir conjurer l'angoisse du futur, dans un temps où le partage du travail se complique. Pourtant, notre pays souffre de la difficulté de débattre sur l'école sans tomber dans les idées reçues, dans les caricatures. Les innombrables livres sur l'école, quasi tous dénonciateurs, esquivent souvent les solutions. La passion s'y rencontre plus que la raison. Et c'est pourtant de cette dernière, de la raison, que nous avons le plus besoin. Que de textes, que de blogs, j'ai pu lire, qui répandent une théorie du complot, qui relèvent presque de la pensée magique. Quelque part, des méchants, monsieur le ministre, ourdissent la décadence de l'école. Qui sont-ils? Pourquoi le voudraient-ils? Pourquoi prépartir l'échec des générations futures? On ne sait. On ne sait seulement qu'il faut leur résister, qu'il faut jeter des anathèmes et qu'il faut ainsi que la République soit sauvée. Tant d'incantations, tant d'imprécations laissent peu de place aux opinions raisonnables. Mais ce débat passionnel possède au moins un avantage. Il montre que nous avons tous l'école en partage. Rien ne serait pire que l'indifférence, et à tout prendre, ce débat, même soumis à la tyrannie des invectives et des simplismes, est certainement un signe d'unité, même paradoxal. École et nation entretiennent des liens passionnels, parce que la première est le miroir de la seconde. L'école nous renvoie l'image de notre société, et surtout de ses blessures. Les soubresauts de la vie sociale y laissent leur réplique. Discrimination, intégration, violence, crise de l'autorité. Même les événements internationaux tourmentent nos établissements, notamment les événements du Proche-Orient qui peuvent agiter des esprits. Il n'est pas question ici d'idéaliser un certain passé, une certaine période de notre histoire où école et nation auraient entretenu des relations apaisées et fusionnelles. Le sujet a toujours divisé. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui ce lien s'oblitère. Chacun en connaît les causes. D'un côté, le vieux nationalisme, en France comme ailleurs, est en train de dériver vers une sorte de mouvement d'autodéfense de citoyens effrayés par l'interdépendance mondiale. Tout à l'opposé, les identités communautaires se développent sans toujours se soucier de rester compatibles avec les valeurs communes de la République. Et même l'universalisme, suscité par la mondialisation des techniques et de la communication, n'est pas sans risque. Les citoyens qui s'habituent à la culture du net et de l'hyperlien, comme on dit aujourd'hui, se désintéressent de la proximité au profit du mondial. Rien n'est plus néfaste que de substituer aux êtres particuliers l'abstraction de l'humanité, même sous la forme d'un humanisme unanimement partagé. Rousseau s'en irritait de façon prémonitoire, fustigeant ces prétendus cosmopolites qui se vantent d'aimer tout le monde pour avoir le droit de n'aimer personne. Dans ce contexte, la conception même de la citoyenneté devient un enjeu. Des critiques surgissent contre l'abstraction du citoyen qui arrache l'individu à la nature et à l'histoire, comme s'il n'existait aucune hiérarchie sociale et que la leçon de l'histoire ne comptait pas. On assiste à la montée des droits subjectifs ou droits de l'individu, avec des exigences qualifiées de citoyennes qui étaient naguère privées, droits sexuels, droits des enfants, affirmations éthiques ou religieuses originales. Cet individualisme démocratique affaiblit forcément les institutions politiques et sociales, écoles, syndicats, églises, partis. Chaque individu, même un élève, juge légitime d'en appeler à ses droits ou à ses convictions pour refuser de se soumettre à l'autorité. Et d'une façon générale, la question porte sur la compatibilité entre citoyenneté et société ouverte quand nos droits à la culture et à l'identité s'affichent comme divergents des valeurs et des traditions partagées. Cette situation a touché l'école, qui est tiraillée entre ces deux tendances. D'un côté, elle est soucieuse de l'éveil des consciences. De l'autre, elle doit résister à la puissance de l'opinion, délivrer les jeunes des subordinations culturelles du moment, assurer une cohérence du savoir, garantir l'unité de ce qui se transmet. Face au pouvoir des émotions, des idéologies et des modes, l'enseignement doit rester un contre-pouvoir. Mais si l'on veut que l'école joue pleinement ce rôle d'unificatrice de la communauté civique et nationale, encore faudrait-il qu'elle garantisse la justice sociale et l'égalité des chances. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une enquête sociologique sur la perception des inégalités et le sentiment de justice a été menée récemment par le groupe d'études et des méthodes de l'analyse sociologique à la Sorbonne, le GEMAS, avec le soutien de l'Académie des sciences morales et politiques. Que nous dit cette enquête très riche ? Je ne citerai qu'un chiffre et un fait. Le fait d'abord, il est positif. La qualité des établissements scolaires n'est citée qu'en fin de classement des causes d'inégalité sociale liées à l'école. Et le chiffre, il est nettement plus inquiétant. 36% des Français interrogés jugent les inégalités scolaires très fortes. Pourtant, depuis Jules Ferry, la République n'a pas été avare de ses énergies. Et si nous considérons seulement les 50 dernières années, le chemin parcouru est immense. Nous avons relevé un défi historique, celui d'avoir ouvert la voie des études à ceux qui n'étaient pas des héritiers, d'avoir accueilli le flot des enfants du baby-boom en construisant certaines années jusqu'à un collège par jour, d'avoir multiplié par 12 la proportion de bacheliers d'une classe d'âge, 5% en 1960, plus de 65% aujourd'hui. L'école reste le premier budget de la nation. La dépense scolaire de l'État représente le quart de son budget et plus d'un fonctionnaire sur deux. Mais une chose est sûre, si l'école a réussi à scolariser tout le monde, elle a échoué dans sa mission d'intégration et de promotion. La massification n'est pas la démocratisation. Les chiffres publiés par l'OCDE l'ont démontré. Parmi une trentaine de pays comparables, nous nous classons désormais médiocrement. La France est 10e en culture mathématique, 14e pour la compréhension écrite, et une partie de l'enquête dite PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, porte sur le lien entre le milieu socio-économique et les performances des élèves dans la compréhension de l'écrit. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, un élève issu d'un milieu privilégié devance son camarade issu d'un milieu moins favorisé de 38 points, soit l'équivalent de plus d'une année d'études. Pour la France, l'écart est de 50 points, c'est-à-dire bien supérieur à la moyenne des pays concernés. Il faut donc se rendre à l'évidence. Le premier facteur de réussite scolaire pour un enfant reste son milieu familial. Le niveau d'études de ses parents, de sa mère en particulier, joue un rôle décisif. Les hiérarchies sociales et culturelles se reproduisent très tôt, selon les types d'établissements, de classes, de filières. Le nombre d'enfants issus des milieux défavorisés qui accèdent aux études supérieures ou aux grandes écoles ne cesse de diminuer. Si les initiés tirent leur épingle du jeu, si l'école de la République ne permet pas le brassage social, si elle ne joue pas son rôle de promotion sociale et culturelle, qui s'en chargera ? Je suis profondément persuadé que l'enjeu de la justice sociale à l'école et par l'école est indispensable du socle commun d'enseignement qu'il faut sans cesse réaffirmer et consolider. Certes, au collège, tous les élèves ne peuvent avoir le même profil ni les mêmes aspirations. Viser à 100% de qualification de chaque classe d'âge, c'est forcément vouloir des parcours différenciés. Il vaut mieux que certains jeunes de moins de 15 ans puissent rejoindre l'apprentissage et des formations en alternance au lieu d'être maintenus contre leur gré dans des carcans généralistes qui les désespèrent. Mais c'est avant le collège que tout se joue. Vu l'effort considérable que la nation consente au bénéfice de l'école, elle ne peut accepter que tant d'élèves arrivent au seuil de l'adolescence sans la culture commune, sans les connaissances et sans les compétences fondamentales. Au fond, chacun sait l'objectif premier. C'est qu'aucun élève n'entre plus en sixième sans savoir lire, écrire et compter. Tout le monde l'a dit. C'est cependant aujourd'hui le cas d'un quart des jeunes Français. La priorité absolue, c'est la guerre contre l'illettrisme, l'apprentissage renforcé de la lecture, le repérage précoce des élèves en difficulté. Tout le reste passe au second plan. Faut-il rappeler que la pensée gagne en précision et que le vocabulaire gagne en variété et qu'à l'inverse, la pensée dépérit où les mots manquent ? Faut-il rappeler que chaque nuance sentie, chaque mot appris est un talent bien placé et qu'à l'inverse, l'intelligence languit quand la langue est indigente ? L'apprentissage sans faille de la lecture et de l'écriture est essentiel à la formation intellectuelle. Il y a 2 ans, ici même, sous cette coupole, Jacqueline de Romilly nous le redisait. Je cite, « C'est grâce à la littérature que se forme presque toute notre idée de la vie. Le détour par les textes conduit directement à la formation de l'homme. Il nous apporte les analyses et les idées, mais aussi les images, les personnages, les mythes et les rêves qui se sont succédés dans l'esprit des hommes. Ils nous ont un jour émus parce qu'ils étaient exprimés ou décrits avec force, et c'est de cette expérience que se nourrit la nôtre. » Priver les enfants de l'accès aux richesses de la langue, c'est les condamner à vivre en marge de la société et de la nation. Et si qu'ils n'ont pas eu le français pour langue maternelle, c'est même les enfermer dans un ghetto, d'où, nous le savons bien, ils ne sortiront guère ou qu'avec beaucoup de peine. Au contraire, la maîtrise d'une langue, c'est-à-dire le bon usage de notre langue, est encore le meilleur moyen d'abattre les murs de nos ghettos. Apprendre à lire, à écrire et compter. Je voudrais ajouter apprendre à parler. Apprendre aux jeunes à bien parler. Le fond et la forme sont inséparables. 2000 ans de culture rhétorique nous l'ont appris. Fond inséparable et associé à l'art de bien dire, à l'art de bien penser. Les anciens faisaient le cœur de la formation du citoyen, de l'homme libre, capable d'argumenter et de choisir dans le sens du bien commun de cet art de bien dire. Formation élitiste que tout cela, me dira-t-on ? Rien n'est plus faux. Quintilien a réfuté cet argument depuis longtemps, dès le premier chapitre de son « Institution oratoire », écoutons-le encore. J'entends dire tous les jours qu'il y a fort peu d'hommes en état de bien comprendre ce qu'on leur enseigne et que la plupart, faute d'intelligence, y perdent leur temps et leur peine. Cette plainte n'est pas fondée. On en rencontre au contraire beaucoup qui ont autant de facilité à imaginer que de promptitude à apprendre. Car cela est dans notre nature et même, de même que l'oiseau est né pour voler et le cheval pour courir, la bête féroce pour se repaître de carnage, de même, l'homme est né pour exercer sans cesse sa pensée. Peu de lectures aussi revigorantes que ces pages lumineuses si confiantes dans la nature humaine. Oui, ce passé, ce vieux passé, c'est encore le présent et c'est ce que notre présent a besoin de connaître. Ce vieux passé, ce sera encore le futur, tant que notre futur connaîtra son intérêt. L'unité de la société française dépend de l'aptitude de son école à garantir l'unité de son enseignement. Principalement le socle commun de connaissances. Telle est la voie du redressement. Les obstacles ne manquent pas. Mon parcours personnel m'a donné l'occasion de les observer de près, mais il m'a appris aussi à ne pas les surestimer. Le premier obstacle vient de la difficulté à réformer l'école. C'est indéniable. Mais n'est-ce pas aussi parce qu'on en a trop réformé ? Les réformes ont à peine le temps d'arriver jusqu'aux établissements qu'elles sont déjà remplacées par les suivantes. Entre le train des réformes et le train des mesures, entre le tableau des arrivées et le tableau des départs, c'est la gare de Lyon à l'heure de pointe. Il y a quelque chose de malhonnête à vouloir soumettre les enfants à toutes sortes d'expériences. Pour réformer, il faut avoir en tête que le temps de l'école ne se confond pas avec le passage d'un homme dans un ministère. C'est un temps long qui demande la stabilité, qui demande que l'on préfère ce qui est juste à ce qui est neuf. Le second obstacle vient de la centralisation et de l'ordre bureaucratique. Je ne crois pas que ce soit une fatalité, tous les spécialistes de l'école le disent désormais, quel que soit leur horizon de pensée. Aucune réforme, si parfaite qu'en soit sa conception, ne peut prétendre épouser l'extrême variété des situations. Car tout se gagne sur le terrain, au cœur des classes. Les établissements scolaires doivent respirer à leur rythme, se sentir responsables, inciter à l'initiative. C'est à eux de choisir leurs moyens, notamment pédagogiques, d'atteindre les objectifs nationaux. Des établissements plus autonomes, où le pragmatisme l'emporterait sur l'idéologie, ne remettront pas en cause le caractère national de notre système éducatif. Ils feront au contraire confiance aux femmes et aux hommes de terrain, proches des élus, des associations, des entreprises qui les entourent. Ils savent mieux que quiconque comment agir en fonction du contexte local, de la diversité des élèves, des attentes des parents. Ils sont les mieux à même de sortir l'école de son isolement et pour cela de lui trouver des alliés. Car l'école ne peut réussir toute seule. Les principaux alliés doivent être les parents d'élèves. On parle beaucoup de la crise de la famille. Laissez imaginer que de nombreux enfants seraient comme livrés à eux-mêmes. Ce n'est pas le cas, fort heureusement. L'immense majorité des enfants ont une famille, recomposée ou non, sur laquelle ils peuvent compter. C'est à elle que l'école doit s'adresser, afin que parents et enseignants puissent, sur l'essentiel, parler d'une seule voix. Les parents d'élèves qui trop souvent critiquent les enseignants se rendent-ils compte à quel point ils se jugent eux-mêmes en croyant les juger ? On pourrait aussi évoquer la politique de la ville. Comment croire à des règles dans un espace urbain déréglé, illisible, sans contour bien défini ? C'est donc un vaste réseau de solidarité qu'il faut tisser autour de l'école, celle-ci restant cependant au centre, afin que petit à petit les choses reprennent sens et que soit repoussé le spectre d'une dislocation. Car en dernière analyse, c'est bien dans la classe que se joue l'échec ou le succès de l'enseignement. C'est là que le maître donne les outils du savoir, les objectifs à atteindre, le désir de connaître. Rendons leur honneur aux maîtres et aux professeurs. N'oublions pas cet enjeu considérable. Au moment où se prépare un renouvellement massif du corps enseignant, dans les années qui viennent, la moitié des professeurs partiront à la retraite. La revalorisation de la fonction enseignante passe par la conscience retrouvée du rôle social éminent du professeur. C'est pourquoi chaque citoyen doit veiller à ce que les enseignants soient respectés. De son côté, la nation doit valoriser le mérite et l'engagement de chacun en soutenant en termes de salaire et de déroulement de carrière ceux qui s'engagent durablement, notamment dans les quartiers difficiles. Chers confrères, mesdames et messieurs, dans la mémoire de chacun de nous, brille le souvenir d'un instituteur, d'un professeur, qui nous a stimulés, qui nous a exaucés. Dans un monde plus ouvert, mais aussi plus incertain, il est celui qui transmet des savoirs, qui construit des repères, qui détecte des talents, qui aide à les épanouir. Il a vocation à être ce premier homme dont Camus avait gardé la mémoire à qui il devait tant. Être le premier homme non seulement pour de bons élèves, mais aussi sur lui pour qui en a le plus besoin. Être le premier homme pour le dernier de la classe. Le rôle du professeur n'est pas d'indiquer à l'élève un seul horizon, celui de la réussite scolaire, puisque l'étude est vaine sans la conscience qui l'accompagne et sans l'action à laquelle elle prépare. Pas davantage d'être un héros, même s'il est parfois, ni un maître à penser envahissant et exclusif. Son rôle est d'établir, d'instruire, d'instituer l'humanité dans l'homme en devenant, aux yeux d'élèves, un exemple. C'est assez. À bien y regarder, c'est même beaucoup. Le ministère de l'Éducation nationale est celui du destin. De quel sujet la nation doit-elle se saisir en toute priorité, sinon de celui-là ? Car il n'y a pas de démocratie solide sans cohésion nationale, et il n'y a pas de cohésion nationale sans un socle commun de connaissances scolaires fondamentales, garant de la justice sociale. Si l'unité de la société française résiste aux doutes qui s'emparent d'elle, c'est à l'école qu'elle devra. Si l'école résiste aux tensions qui la traversent et qu'on lui fait porter, c'est au dévouement des professeurs qu'elle le devra. C'est pourquoi nul ne peut concevoir la défense de l'école qu'en lui donnant pour principe le respect de l'élève et la grandeur des maîtres. Ce n'est pas une spéculation de principe, ce n'est pas une vaine espérance. On touche ici à un enjeu premier et vital pour que ne se grippe pas l'incessante noria des générations, celle qui forme dans l'histoire la continuité et la grandeur d'une nation.
Je remercie M. Xavier Darcos. La parole est à M. Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences.
Monsieur le ministre, mes chers confrères, mesdames et messieurs, la science en héritage. Les merveilles de la science contemporaine enchantent les chercheurs, séduisent ou parfois inquiètent nos sociétés et leur jeunesse, interrogent la conscience morale, bouleversent nos vies par leurs applications. Ce constat, somme toute banal, bouscule la transmission de cette science au sein des institutions scolaires dans le monde entier. Évaluation nationale ou internationale, incertitude de bien des professeurs, insatisfaction de bien des élèves, tout exprime la nécessité de changements profonds dans la transmission de l'héritage scientifique à nos élèves. Et sans ces changements que je vais évoquer devant vous, la société de la connaissance et de l'innovation que nous voulons en Europe n'aura été qu'un beau rêve. Nous sentons bien déjà que les échéances prochaines vont placer l'éducation parmi les questions brûlantes posées à notre pays. Georges Charpak, qui nous a quittés en septembre dernier, l'avait pressenti, et l'Académie des sciences, tout à l'heure, a rappelé la vie hors du commun de cet immigrant, enfant accueilli par l'école française. Elle lui a rendu, en grande salle des séances, un solennel hommage en présence de tant de femmes et d'hommes, des plus modestes aux plus grands, qui l'inspira. La fécondité de ses intuitions, sa ténacité assortie d'un humour radical pour bousculer, pour séduire, pour convaincre, son sens de l'urgence éducative et sa rébellion devant les inégalités ont anticipé, en France et bien au-delà, le grand changement qui se dessine aujourd'hui dans l'enseignement des sciences. Notre Académie veut poursuivre son œuvre en France et de par le monde. Échec de l'élitisme républicain. Car aujourd'hui, les déterminations sociales sont devenues redoutables. Le niveau d'études de la maman, les échanges langagiers ou les compétences numériques avant l'âge de 3 ans, les performances scolaires en fin de cours élémentaire prédisent presque infailliblement le devenir scolaire d'un jeune en fin de collège. 40% de nos élèves entrant en classe de 6e ne maîtrisent ni les notions de base des mathématiques, ni celles des sciences de la nature. Alors, quelle égalité des chances pour ces enfants, souvent sans aisance langagière, écartés d'une compréhension raisonnée du monde, à la curiosité demeurant en jachère, à l'avenir déjà fermé. Ces enfants que beaucoup de familles, qui les aiment, mais qui sont aux prises avec les difficultés de l'ignorance, du sous-emploi, de l'immigration, ne peuvent accompagner dans leurs études au collège. Ces enfants dont beaucoup seront « orientés », comme on dit, sans choisir leur avenir ou sans obtenir aucun diplôme. 18% d'une classe d'âge aujourd'hui. Aussi, lorsque les enquêtes PISA, déjà citées, de l'OCDE interrogent les jeunes de 15 ans, elles confirment ce que disent nos évaluations nationales, ce déni de justice que vous avez voulu, Monsieur le Ministre, reconnaître publiquement, avec courage. Pour un tiers d'une classe d'âge, notre école est demeurée quasi vaine. La débuter à l'âge de 2 ans pourrait aider certaines familles, mais comment croire que cela suffira si rien de ce qui suit n'était changé? Sans doute, un autre gros tiers de ces élèves tire le meilleur de ses études en collège et ira vers notre enseignement supérieur. À bon compte, cela nous rassure sur l'existence d'une élite scientifique et technique. Celle-ci se renouvelle encore sans difficulté majeure, avec le quart d'une classe d'âge qui, au lycée, choisit soit la section scientifique, 80%, soit les sections technologiques de l'ingénieur ou du laboratoire, 20%. Mais demeurons vigilants. Un affaiblissement des activités expérimentales, pilier d'un enseignement scientifique, nous préparerait vite de rudes désillusions. Georges Charpak rappelait souvent que cette élite, dont beaucoup ne choisissent plus d'ailleurs, après leur baccalauréat, des métiers scientifiques, est recrutée, de fait, sur une population de moins de 10 millions d'habitants. Peut-être les nouveaux internats d'excellence infléchiront-ils cette situation. Ces enquêtes internationales, PISA, placent la France à la moyenne, ce dont certains se contenteraient. Mais cette moyenne est une illusion, car elle résulte de ce grand écart entre le tiers excellent et le tiers à l'abandon. La nation consacre d'immenses ressources à l'éducation, bien que la dépense éducative nationale, qui croît en valeur absolue depuis 15 ans, représente pourtant, en valeur relative, une part décroissante de la richesse du pays. Devant un tel effort consenti par la nation, ne peut-on attendre de cette école qu'elle abolisse, au moins pour partie, de si lourds handicaps sociaux ou familiaux, et les sciences, tout particulièrement, n'ont-elles pas souvent joué ce rôle d'ascenseur social ? Lors de la création de l'école normale de l'an 3, en 1795, sur le modèle de l'école révolutionnaire du Salpêtre, avec le chimiste Claude Berthollet, c'est avec la science que les conventionnels voulaient atténuer les privilèges de la naissance pour régénérer l'entendement humain. Or, cette science est devenue aujourd'hui le symbole d'une fort rude sélection. Ceci doit changer, car l'héritage que la science doit transmettre est plus que jamais indispensable à tous les jeunes pour affronter la complexité du monde présent. Nous devons leur apprendre à prélever, organiser, comprendre, exploiter l'information surabondante qui les entoure, à aimer cette intelligence du monde que donne la science. Trois voies prometteuses et enthousiasmantes peuvent remettre l'éducation en phase avec la science et le rôle social que celle-ci peut et doit jouer. Une transformation de la pédagogie. Le développement professionnel des professeurs au contact de la science vivante et de ses acteurs. Enfin, une conception plus globale du savoir. Un peu partout dans le monde, nous observons que s'établit sur ces trois orientations un consensus plein d'espérance. Nous les explorons avec nombre d'académies des sciences, car elles requièrent un travail commun et tout à fait nouveau entre scientifiques et ingénieurs et autorités éducatives. Ainsi, l'Allemagne, possédant pourtant un système en apparence plus discriminant que le nôtre dès la classe de sixième, a pris ses mauvais résultats PISA en 2000 très au sérieux et en une décennie a enregistré de vrais progrès. Trois voies, disais-je. Tout d'abord, une pédagogie nouvelle, celle de l'investigation, mélange subtil d'inductif et de déductif, pratiquée avec bonheur par l'élève. Elle n'est pas si nouvelle que cela, puisque la vision d'un Georges Charpak, qu'un enfant ou un adolescent fasse des mathématiques ou des sciences de la nature autant que d'en apprendre, fut aussi, cette vision, celle de Faraday, de Jean Perrin et de bien d'autres, faisant écho au Leidenschaftlich Neugierig, ce passionnément curieux dont Albert Einstein faisait le centre de son activité personnelle. Inutile d'insister ici trop longtemps sur ce message de la main à la pâte, désormais connu, sinon écouté, partout, qui percole tout doucement, trop lentement encore dans nos écoles primaires, comme au Pérou, en Chine, en Serbie ou au Maroc. L'hétérogénéité des classes, que je préférerais appeler ici diversité des talents, y est un atout, quand le dialogue et la curiosité, universels chez les enfants, rejoignent l'universalité de cette science qu'ils découvrent avec un verre d'eau, une bougie, un insecte. Mais rappelons au passage qu'après 16 années d'efforts soutenus de notre Académie des sciences, il demeure encore plus d'une moitié de nos classes primaires françaises où les sciences de la nature, figurant pourtant dans les obligations du programme, ne sont guère enseignées. Dans cette école primaire, ne mettons pas d'ailleurs à l'excès l'accent sur des apprentissages mécaniques du lire et écrire, oubliant par exemple que l'usage du cahier d'expérience tel que le pratique la main à la pâte ne le cède en rien, ni en précision, ni en créativité, à l'écriture d'une poésie. Vous avez engagé, monsieur le ministre, une lutte contre l'innumérisme, terme venu du Québec. Vous déplorez que nos CM2 ne sachent plus leur table de multiplication, tant cela va plus vite sur leur calculette ou leur téléphone. Et pourtant, nous savons tous que ces mêmes enfants, sur leur clavier chaque jour, excellent, bien mieux que nous, dans l'univers numérique, où ils fréquentent des nombres sans le savoir. N'est-ce point cela aussi qu'il faudrait explorer dans un laboratoire de mathématiques où ces élèves s'étonneraient alors de pouvoir mettre une couleur sous forme d'un nombre, manipulant alors multiplication aussi bien qu'ordre de grandeur. Mutatis mutandis, une main à la pâte en mathématiques réduirait sans doute le terrible effet anxiogène de cette discipline, un effet connu qui touche plus de la moitié des filles et presque autant des garçons de 15 ans dans tous les pays de l'OCDE, sans compter leurs parents et parfois leurs maîtres. Seconde voie, des professeurs accompagnés dans leur développement professionnel, on dit aussi formation continue, au contact de la science vivante et de ses acteurs. L'accent mis ces dernières années sur le processus de masterisation dans nos universités fait oublier la bien mauvaise situation de notre pays quant à la formation continue de son corps enseignant. Un récent ministre de l'Éducation nationale, s'exprimant devant notre académie, qualifiait de « totalement sinistré » la formation continue des professeurs. À l'école, au collège, au lycée, comment un professeur fera-t-il aimer la science à ses élèves sans en cultiver pour lui-même le goût, fût-ce à un niveau élémentaire, comme un professeur de lettres cultive celui de la littérature. Toutes les enquêtes internationales corrèlent la qualité de l'enseignement aux efforts durables de développement professionnel des professeurs. Ce qui est jugé indispensable, presque du bon sens, pour un ingénieur ou un médecin qui, dans leur pratique professionnelle, doivent constamment dépasser les savoirs acquis au cours des études initiales, pourquoi ne le serait-ce pas pour un professeur ? Nos voisins britanniques l'ont compris avant nous. Leurs investissements d'avenir ont su mettre en place 10 Science Learning Centers, répartis sur l'Angleterre depuis 2008, qui rapprochent en permanence de la science vivante et de ses acteurs un grand nombre de professeurs. Et les mathématiques font chez eux l'objet d'un effort parallèle. Le rapport que vient d'adresser la Royal Society au gouvernement de Sa Majesté est exemplaire dans un contexte de manque criant de professeurs pour enseigner les sciences outre-Manche. Et j'ai déjà évoqué l'Allemagne. Notre Académie, sur ce point, s'est résolument engagée pour rapprocher professeurs et monde scientifique. D'abord, en soutenant à grande échelle et depuis 10 ans un dispositif réussi d'accompagnement des maîtres d'école par des scientifiques, mettant ainsi en place un dialogue entre ces deux mondes. Dans un avis rendu récemment, elle s'engage à nouveau par des propositions précises et plus ambitieuses, associant pleinement les professeurs pour que se développent entre eux de féconds échanges d'expériences et un travail d'équipe autour de la science qui n'est que travail d'équipe. Il faudra bien sortir un jour de l'impossible arbitrage actuel entre tant de présence devant les élèves et tant de vacances pour faire place à des moments de développement professionnel structuré au cours de la carrière, ceci tout naturellement au sein d'universités qui avaient quelque peu oublié cette mission, mais dont bon nombre semblent prêtes à la ranimer. Enfin, cette troisième orientation, une conception plus globale des savoirs, un décloisonnement des disciplines. Chaque année, ici même, l'Académie des sciences distingue les lauréats de ses prix. Ses travaux révèlent l'immensité des savoirs d'aujourd'hui, leur perpétuel mouvement, leurs interactions croisées et souvent improbables, leur degré d'abstraction, leur extrême technicité, leurs surprenantes applications. Des atomes froids à la matière noire de l'univers, il déchiffre inlassablement l'inépuisable complexité du monde. Et notre système d'éducation, ne sachant évidemment plus embrasser cette immensité de savoir, traumatisé, peine à prendre un cap où beaucoup est à réinventer. Il se contente souvent d'aménager des programmes étroitement disciplinaires. Et que l'on ne voit pas dans mes propos une critique d'institution ou de personne, car bien des pays se heurtent à ces mêmes difficultés. Que faire lorsqu'en outre, une consultation immédiate de Wikipédia offre tant de savoir à nos élèves qu'ils ne se privent pas de recopier sans parfois comprendre. 250 millions de sites Internet en 2009. Aussi, nous considérons plus judicieux d'extraire de cet immense corpus de savoir un petit nombre de notions de science qui, apprivoisées avec constance et progressivité depuis la maternelle jusqu'en fin de collège, donneront à tous les clés essentielles pour lire le monde et le comprendre. C'est cela même que veut notre socle commun, dont un récent rapport du Parlement révèle la trop lente pénétration dans un collège encore encombré de cloisons disciplinaires bien difficiles à ébranler. Et de même, au rythme actuel auquel de nouveaux collèges adoptent un enseignement fondée sur une vision plus intégrée de la science et de la technologie que vous encouragez pourtant, monsieur le ministre, sa mise en œuvre risque de prendre près d'un siècle. Le lieu n'est pas ici d'établir cette courte liste de notions clés, caractère fortement pluridisciplinaire, que l'on jugerait essentiel à tous, liste à laquelle beaucoup s'essaient dans différents pays. Elle donnerait des clés pour comprendre la matière et la cellule vivante, la terre et sa fragilité, les formes et les surfaces, les nombres et la mesure, le ciel étoilé. Mais ces connaissances ne suffiraient pas. Les compétences d'observation et de raisonnement acquises grâce à l'investigation et à des expérimentations faites en classe font découvrir la nature même de la science. Par exemple, ceci, démontrer en mathématiques n'est pas vérifier approximativement sur un dessin que les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes. Ou cela, les explications scientifiques acceptées constituent la meilleure représentation possible des faits connus à un moment donné. Ainsi peut se communiquer entre dogmatisme et relativisme la subtilité de la vérité en science et sa lente construction historique. Ainsi peut s'écarter l'apprendre sans comprendre qui conduit tant de nos concitoyens, parlant de leurs études scientifiques, à avouer, sans rougir, qu'il ne leur en reste rien. Autre décloisonnement, autre cloison disciplinaire à ébranler, la construction inlassable d'un lien fondamental entre science et pratique du français, ce lien que manifeste le prix annuel décerné par l'Académie française avec l'Académie des sciences à une classe de sixième, comme cette année, celle qui était partie à la recherche des sens du mot « source ». Nous voici bien loin, avec de tels rapprochements, des propos acides d'un François Arago à Alphonse de Lamartine. Ce n'est pas avec des paroles qu'on fait du sucre de betterave, ni avec des alexandrins qu'on extrait la soude du sel marin. Entendons-nous, ce décloisonnement, ici comme ailleurs, ne signifie pas la banalisation d'un professeur devenu une sorte de pic de la Mirandole. Il s'appuie au contraire sur l'excellence disciplinaire du professeur et son goût pour le savoir construit. Si notre école du socle, entre 5 et 16 ans, pouvait transmettre à tous ses élèves une telle image de la science, alors le magnifique grand récit du monde, cher à Michel Serres, et que dessine la science contemporaine, ce récit dissible dans toute culture, ne serait plus entendu par nos concitoyens comme un conte de fées, un conte affublé un instant de mystérieux pouvoirs, puis tout aussi vite diabolisé. Car on ne raisonne pas la magie du conte, on s'y abandonne. Au contraire, devenu capable de raisonner, il comprendrait mieux, chacun à son niveau, l'admirable paysage d'une science faite d'imagination, de raison, de modestie et d'éthique. Je conclurai. Notre Académie propose à notre école primaire et à son ministre d'adopter désormais lire, écrire, compter, raisonner, comme les quatre fondamentaux de l'école du XXIe siècle. Dans sa lettre aux instituteurs de 1883, Jules Ferry avait fait des trois premiers un programme politique. Pourquoi ne pas accepter le défi du quatrième et le mettre en œuvre avec les mathématiques et les sciences de la nature, ces écoles privilégiées, mais non exclusives, du raisonnement ? Votre récent plan science manifeste, monsieur le ministre, votre attention au sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais le chemin sera long. Il va demander de la ténacité, sinon de l'obstination. Le temps de l'éducation est un temps long. Il y a 16 ans, Georges Charpak semblait prêcher dans un désert, soutenu par l'enthousiasme d'une poignée, 344 exactement, poignée d'instituteurs qui, à ses côtés, retrouvèrent leur curiosité d'enfant et cessèrent d'avoir peur d'enseigner la science en avouant ne pas connaître la réponse aux questions de leurs élèves. Aujourd'hui, nos écoles, nos universités ont enfin pris conscience qu'il y avait un problème, mais aussi des solutions à construire avec le corps enseignant. qu'offrir à tous des savoirs et une compréhension de la science était possible, et qu'alors s'augmenterait également le vivier des futurs scientifiques, techniciens, ingénieurs, que nous verrions se concrétiser l'espoir que formulait Condorcet, le progrès des sciences assure le progrès de l'art d'enseigner, lequel, en retour, accélère le progrès des sciences. Un propos que n'aurait pas démenti Georges Charpak.
Je remercie M. Pierre Léna. La parole est à M. Michel Serres de l'Académie française.
Avant d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, au moins faut-il le connaître. Qui se présente aujourd'hui à l'école, au collège, au lycée, à l'université? Ce nouvel écolier, cette jeune étudiante, n'a jamais vu veaux, vaches, cochons ni couvées. En 1900, la majorité des humains sur la planète travaillait au labour et à la pâture. En 2011, la France, comme les pays analogues, ne compte plus qu'1% de paysans. Sans doute faut-il voir là l'une des plus fortes ruptures de l'histoire depuis le néolithique. Jadis référée aux pratiques géorgiques, la culture soudain changea. Celle ou celui que je veux vous présenter cet après-midi ne vit plus en compagnie des vivants, n'habite plus la même terre, n'a plus le même rapport au monde. Elle ou il n'admire qu'une nature arcadienne, celle du loisir et du tourisme. Il ou elle habite la ville. Ses prédécesseurs immédiats, pour plus de la moitié, hantaient les champs. Mais, devenu sensible à l'environnement, il polluera moins, prudent et respectueux que nous autres adultes inconscients et narcisses. Il n'a plus la même vie physique, ni le même monde en nombre, la démocratie ayant soudain autour de lui bondi vers 7 milliards d'humains. Il habite désormais un monde plein. Son espérance de vie va vers 80 ans. Le jour de leur mariage, ses arrière-grands-parents s'étaient jurés fidélité pour une décennie à peine. Qu'il et elle envisagent de vivre ensemble, vont-ils jurer d'eux-mêmes pour 65 ans? Leurs parents, d'autre part, héritèrent vers la trentaine. Ils doivent attendre la vieillesse pour recevoir le même legs. Ils ne connaissent plus les mêmes âges, ni le même mariage, ni la même transmission de biens. Partant pour la guerre, fleurs au fusil, leurs parents offraient à la patrie une espérance de vie brève. Y courront-ils de même avec devant eux la promesse de 6 décennies? Depuis 60 ans, intervalle unique dans notre histoire, il et elle n'ont jamais connu de guerre, ni bientôt leurs dirigeants, ni bientôt leurs enseignants. Bénéficiant d'une médecine enfin efficace, et en pharmacie d'antalgiques et d'anesthésiques, ils ont, dans leur vie courte, moins souffert statistiquement parlant que l'ensemble de leurs prédécesseurs. Ont-ils eu faim? Or, religieuse ou laïque, toute morale se résumait en des exercices destinés à supporter une douleur inévitable et quotidienne. Maladie, famine, cruauté du monde. Ils n'ont plus le même corps, ils n'ont plus la même conduite. Aucun adulte ne sut leur inspirer une morale adaptée. Alors que leurs parents furent conçus à l'aveuglette, leur naissance est programmée. Comme pour leur premier enfant, l'âge moyen de la mère a progressé de 10 à 15 années, les parents d'élèves ont changé de génération. Ils n'ont plus la même généalogie. Leurs parents sont divorcés pour plus de la moitié. Alors que leurs prédécesseurs se réunissaient dans des classes ou des amphithéâtres homogènes culturellement, ils étudient au sein d'un collectif où se côtoient désormais plusieurs religions, plusieurs langues, provenances et mœurs. Pour eux et leurs enseignants, le multiculturalisme est désormais de règle. Pendant combien de temps pourront-ils encore chanter l'ignoble sang qu'impur de quelque étranger ? Ils n'ont plus le même monde mondial, ils n'ont plus le même monde humain. Mais autour d'eux, les filles et les fils d'immigrés venus de pays moins riches ont vécu des expériences vitales inverses. Bilan temporaire. Quelle littérature, quelle histoire comprendront-ils heureux sans avoir vécu la rusticité, les bêtes domestiques, la moisson d'été, 10 conflits, cimetières, blessés, affamés, patrie, drapeaux sanglants, monuments aux morts, sans avoir expérimenté dans la souffrance l'urgence vitale d'une morale. Voilà pour leur corps, et voici pour leur connaissance. Leurs ancêtres appuyaient leur culture sur un horizon temporel de quelques milliers d'années, orné par l'Antiquité gréco-latine, la Bible juive, quelques tablettes cunéiformes et une préhistoire courte. Milliardaires désormais, leur horizon temporel remonte à la barrière de Planck, passe par l'accrétion de la planète, l'évolution des espèces et une paléoanthropologie millionnaire. N'habitant plus le même temps, ils n'ont plus la même histoire. Ils sont désormais formatés par les médias, diffusés par des adultes qui ont méticuleusement détruit leur faculté d'attention en réduisant la durée des images à 7 secondes et le temps des réponses aux questions à 15 secondes, chiffres officiels, dont le mot le plus répété est « mort » et l'image la plus représentée, celle des cadavres. Dès l'âge de 12 ans, ces adultes les forcèrent à voir plus de 20 000 meurtres. Ils sont formatés par la publicité. Comment peut-on leur apprendre le mot « relais » qui en français s'écrit « AIS » alors que dans toutes les gares, il est écrit AY. Comment peut-on leur apprendre le système métrique quand le plus bêtement du monde, la SNCF, leur fourgue des smiles ? Nous, adultes, avons doublé la société du spectacle qui est la nôtre d'une société pédagogique dont la concurrence écrasante, vaniteusement inculte, éclipse désormais l'école et l'université. Pour le temps d'écoute et de vision, pour la séduction et l'importance, les médias se sont saisis depuis longtemps de la fonction d'enseignement. Critiqués, méprisés, vilipendés puisque pauvres et discrets, même s'ils détiennent le record mondial des prix Nobel récents et des médailles Phil par rapport au nombre de la population, nos enseignants sont devenus les moins entendus de ces instituteurs riches et bruyants. Les enfants dont je parle habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, lecture ou écriture au pouce des messages, consultation de Wikipédia ou de Facebook n'excite pas les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la fois. Ils ne connaissent, ni n'intègrent, ni ne synthétisent comme nous, leurs ascendants. Ils n'ont plus la même tête. Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toute personne. Par le GPS, en tout lieu. Par la toile, à tout le savoir. Ils habitent donc un espace topologique de voisinage, alors que nous habitions un espace métrique référé par des distances. ils n'habitent plus le même espace. Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né, pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare en gros des années 70. Il ou elle n'a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit plus le même monde, ne vit plus dans la même nature, n'habite plus le même espace. Né sous péridurale et de naissance programmée, ne redoute plus sous point palliatif la même mort. N'ayant plus la même tête que celle de ses parents, il connaît autrement. Il ou elle écrit autrement. Pour l'observer avec admiration, envoyer plus rapidement que je ne saurais jamais le faire de mes doigts gourds, envoyer, dis-je, des SMS avec ses deux pouces, je les ai baptisés avec la plus grande tendresse que puisse exprimer un grand-père, petite poussette et petit poussé. Voilà leur nom, plus joli que le vieux mot pseudo-savant de dactylo. Ils ne parlent plus la même langue. Depuis Richelieu, l'Académie française publie à peu près tous les 20 ans, pour référence, le dictionnaire de notre langue. Au siècle précédent, 4 pour dire vrai, la différence entre deux publications s'établissait autour de 4 ou 5 000 mots, à peu près constants dans les siècles. Entre la précédente publication et la prochaine, la différence sera exactement de 27 000 mots. À ce rythme, on peut deviner qu'assez vite, nos successeurs pourraient se trouver demain aussi séparés de notre langue que nous le sommes aujourd'hui de l'ancien français pratiqué par Chrétien de Troyes ou par Joinville. Ce gradient donne une indication quasi photographique des changements que je suis en train de décrire devant vous. Cette immense différence qui touche toutes les langues tient en partie entre les métiers des années récentes et ceux d'aujourd'hui. Petite Poussette et son ami ne s'évertueront plus aux mêmes travaux. La langue a changé, les labeurs ont muté. Mieux encore, les voilà devenus tous deux des individus. Inventés par saint Paul au début de notre ère, l'individu vient de naître en réalité aujourd'hui. De jadis jusqu'à naguère, nous vivions d'appartenance. Français, catholiques, juifs ou protestants, gascons ou picards, femmes ou mâles, indigents ou fortunés, nous appartenions à des régions, des religions, des cultures rurales ou urbaines, des équipes, des communes, un sexe, un patois, la patrie. Par voyage, images, toiles ou guerres abominables, ces collectifs ont peu à peu explosé. Ce qui reste, c'est filoche. L'individu ne sait plus vivre en couple. Il divorce, ne sait plus se tenir en classe, il bouge et bavarde, ne prie plus en paroisse. L'été dernier, nos footballeurs n'ont pas su faire équipe. Nos politiques savent-ils encore construire un parti plausible ou un gouvernement stable? On dit partout mortes les idéologies. Non, ce sont les appartenances qu'elles recrutaient qui s'évanouissent. Ce nouveau-né individu, voilà, je le crois, une bonne nouvelle. En effet, à balancer les inconvénients de ce qu'on appelle égoïsme par rapport aux crimes commis par et pour la libido d'appartenance des centaines de millions de morts, j'aime d'amour ces jeunes gens. Cela dit, reste à inventer de nouveaux liens. En témoigne le recrutement de Facebook, quasi équipotent à la population mondiale. comme un atome sans valence, petite poussette et toute nue. Nous, adultes, n'avons inventé aucun lien social nouveau. L'entreprise généralisée du soupçon et de la critique contribua plutôt à les détruire. Rarissime dans l'histoire, ces transformations que j'ai appelées ominescentes créent au milieu de notre temps et de nos groupes une crevasse si large et si évidente que peu de regards l'ont estimée à leur vraie taille. Elle est comparable, je le crois, à celle visible du néolithique, à l'aurore de la science grecque, au début de l'ère chrétienne, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Sur la lèvre aval de cette faille, voici des jeunes gens auxquels nous prétendons dispenser de l'enseignement au sein de cadres datant d'un âge qu'ils ne reconnaissent plus. Bâtiments, cours de récréation, salles de classe, amphithéâtres, campus, bibliothèques, laboratoires, savoir même, cadres datant, dis-je, d'un âge et adaptés à une ère où les hommes et le monde étaient ce qu'ils ne sont plus. Trois questions maintenant, par exemple. Que transmettre ? À qui le transmettre ? Comment le transmettre ? Que transmettre ? Le savoir. Jadis et naguère, le savoir avait pour support le corps du savant, qu'il soit un naède, qu'il soit un griot. Une bibliothèque vivante, voilà le corps enseignant du pédagogue. Peu à peu, le savoir s'objectiva. D'abord sur des rouleaux, sur des vélins ou parchemins, support d'écriture. Puis, dès la Renaissance, dans des livres de papier, support de l'imprimerie. Enfin, aujourd'hui, sur la toile, support de messages et d'informations. L'évolution historique du couple support-message est une bonne variable de la fonction d'enseignement. Du coup, la pédagogie changea au moins trois fois. Avec l'écriture, les Grecs inventèrent la païdéia. À la suite de l'imprimerie, les traités pédagogiques pullulèrent. Et aujourd'hui, je le répète, que transmettre ? Le savoir. Le voilà, partout sur la toile, disponible, objectivé. Le transmettre à tous ? Mais désormais, tout le savoir est accessible à tous. Comment le transmettre ? Voilà, c'est fait. Avec l'accès aux personnes par le téléphone cellulaire, avec l'accès aux lieux par le GPS, l'accès au savoir est désormais ouvert. D'une certaine manière, il est toujours et partout déjà transmis. Objectivé, certes, mais de plus, distribué, non concentré. Nous vivions, je l'ai dit, dans un espace métrique référé à des centres, c'est-à-dire à des concentrations. Une école, une classe, un campus, un amphi, voilà des concentrations de personnes, d'étudiants, de professeurs, de livres, d'instruments dans les laboratoires. Ce savoir, ces références, ces textes, ces dictionnaires, les voilà distribués partout et en particulier chez vous. Même les observatoires, mon cher Pierre Léna. Mieux, en tous les lieux où vous vous déplacez, de là étant, vous pouvez toucher vos collègues, vos élèves, où qu'ils passent, où qu'ils soient. Ils vous répondent aisément. L'ancien espace des concentrations, celui-là même où je parle et où vous m'écoutez, que faisons-nous ici ? Cet espace se dilue, se répand. Nous vivions, je viens de le dire, dans un espace de voisinage immédiat, mais de plus distributif. Je pourrais vous parler de chez moi ou d'ailleurs. Vous m'entendriez ailleurs ou chez vous. Que faisons-nous donc ici ? Ne dites pas surtout que petite poussette ou petit poussé manque des fonctions cognitives qui permettent d'assimiler le savoir ainsi distribué, puisque justement, ces fonctions cognitives se transforme selon les supports. Par exemple, à l'époque de l'écriture et de l'imprimerie, la mémoire muta au point que Montaigne demanda une tête bien faite et non pas une tête bien pleine. Cette tête vient de muter encore une fois. De même donc que la pédagogie fut inventée paideia par les Grecs, au moment de l'invention et de la propagation de l'écriture, de même qu'elle se transforma quand émergea l'imprimerie à l'époque de la Renaissance, de même la pédagogie change totalement avec les nouvelles technologies. Et je le répète, elles ne sont qu'une variable quelconque parmi la dizaine ou la vingtaine que j'ai citée ou que je pourrais citer. Ce changement si décisif de l'enseignement, changement répercuté sur l'espace entier de la société mondiale et sur l'ensemble de ses institutions désuètes, changement qui ne touche pas et de loin l'enseignement seulement, mais aussi le travail, les entreprises, la santé, le droit, la politique, bref, l'ensemble de nos institutions, nous sentons en avoir un besoin urgent, mais nous en sommes encore loin. Probablement parce que ceux qui traînent dans la transition entre ces derniers États n'ont pas encore pris leur retraite, alors qu'ils diligentent les réformes selon des modèles depuis longtemps évanouis. Enseignant moi-même, depuis un demi-siècle sous à peu près toutes les latitudes du monde, où cette crevasse s'ouvre aussi largement que dans mon propre pays, j'ai subi, j'ai souffert ces réformes-là comme des emplâtres sur des jambes de bois ou des rapetassages. Or, les emplâtres endommagent le tibia, même artificiel, et les rapetassages déchirent encore plus le tissu qu'ils cherchent à consolider. Oui, depuis quelques décennies, je vois que nous vivons une période comparable à l'aurore de la paideia, après que les Grecs apprirent à décrire et à démontrer, semblable à la Renaissance, qui vit naître l'impression et le règne du livre apparaître, période incomparable pourtant, puisqu'en même temps que ces techniques changent, le corps s'est métamorphosé, a changé la naissance, s'est transformé la mort, où la souffrance et la guérison se sont métamorphosées, où les métiers, l'espace, l'habitat, l'être au monde même a muté. Face à ces mutations considérables, sans doute convient-il d'imaginer d'inimaginables nouveautés, hors les cadres désuets que forment encore nos conduites, nos médias et nos projets exclusivement adaptés à la société du spectacle. Je vois nos institutions aujourd'hui luire d'un éclat semblable à celui des constellations dont mes amis astronomes m'avaient appris qu'elles étaient mortes depuis longtemps déjà. Pourquoi ces nouveautés ne sont-elles point advenues ? Je crains fort de devoir en accuser les philosophes dont je suis, gens qui ont pour métier d'anticiper le savoir et les pratiques à venir et qui ont, ce me semble, failli à leur tâche. Engagés dans la politique au jour le jour, ils n'ont pas vu émerger le contemporain. Si j'avais eu à croquer le portrait des adultes dont je suis, le profil que je viens de dessiner eût été moins flatteur. Oui, je voudrais avoir 18 ans, l'âge de petites poussettes et de petits poussés, puisque tout est à refaire. Non, puisque tout reste à inventer. Je souhaite que la vie me laisse assez de temps pour y travailler encore en compagnie de ces petits, auxquels j'ai dévoué toute ma vie, parce que je les ai toujours respectueusement aimés.
Les textes de ces discours sont mis en ligne sur le site de l'Institut de France dans leur intégralité www.institut-de-france.fr/éducation.